Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Comme tous les lundis soirs, on va refaire l'actualité sportive sur le continent avec les analyses, les commentaires. Bien évidemment, on vous attend votre appel en direct. Le numéro de téléphone, c'est le 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. On va saluer nos intervenants habituels. Amine Birouk qui est avec nous depuis Casablanca. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer Jules Valentin Ngoué qui est à Libreville, c'est au Gabon. Bonsoir Jules Valentin.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Depuis Boïcon, c'est au Bénin, on salue Élisée Mpachine. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
Il nous fait le plaisir d'être avec nous depuis Kinshasa via Skype. Thierry Kambundi, le rédacteur en chef de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Et il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir également, Amdine Sy, qui est de ce côté-ci de l'Atlantique pour une fois dans l'Ohio. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Nicolas Pinon et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Allez messieurs, on va bien évidemment reparler de ce long week-end des éliminatoires de la CAN 2019 sur le continent africain, à la veille bien évidemment de la quatrième journée de cette CAN qui, on le rappelle, se déroulera entre le mois de juin et le mois de juillet l'année prochaine, en 2019, a priori au Cameroun, mais gros point d'interrogation, on en a parlé plusieurs fois sur Sporama. On va donner la parole à Amdine Sy. Amdine, le Sénégal a fait le travail au stade Léopold Sédar Senghor, 3-0 face au Soudan. C'est important, notamment si le Sénégal gagne face au Soudan lors du match retour, lors de cette quatrième journée. Le Sénégal pourra logiquement envisager la CAN 2019.
Tout à fait, Nicolas Pinon. Les Lions de la Teranga sont à 90 minutes d'une qualification de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2019 au Cameroun, comme vous l'avez dit, puisque les Sénégalais ont battu quand même le Soudan, les crocodiles du Nil, comme on les appelle, sur le score de 3-0. Pourtant, les choses n'étaient pas du tout faciles, puisque durant la préparation, il y a eu une cascade de forfaits avec l'axe central qui a été décimé, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, et le latéral droit, Lamine Gassama, qui est forfait. À la veille du match également, Moussa Konaté, l'attaquant Damien, a été déclaré forfait. Mais comme le Sénégal, on a un potentiel extraordinaire, Aliou Cissé a fait face avec une équipe du Sénégal New Look, et cette équipe s'est bien comportée. D'ailleurs, l'un des bleus de cette équipe qui a remplacé Kalidou Koulibaly a ouvert la marque. Il s'agit du jeune Pape Abdou Cissé qui a ouvert la marque à la 17e minute, et parce que le match était mal emballé pour les Lions qui n'avaient pas quand même qui n'ont pas pu quand même prendre le jeu à leur compte. Mais heureusement pour ce but venu sur un corner, et Pape Abdou Cissé a ouvert la marque. 3 minutes après, Ganagay a doublé la mise sur une belle passe de Sadio Mané. Ensuite, Mbaïna a marqué un troisième but sur un tir détourné. Mais bref, le plus important, c'est le match retour, parce qu'il faut finir le boulot, le job, comme on le dit. Et les Lions sont à Khartoum. Les Lions qui ont été mis dans d'excellentes conditions, puisque l'État a prêté un avion, puisque le lendemain du match, ils ont pris l'avion, ils ont même devancé les adversaires, ils sont à Khartoum, ils vont jouer sur une pelouse très difficile, une pelouse synthétique, mais ce n'est pas du tout important. L'essentiel est de gagner pour se qualifier, et les hommes d'Aliou Cissé sont bien partis pour quand même réaliser un bon résultat à Khartoum. Nicolas Pinot.
Allez, on va préserver à présent de la victoire des Camerounais face au Malawi grâce à un but d'Eric Choupo-Moting, petit 2-0, et surtout les Marocains qui ont souffert pour battre les Comores. 1-0, un pénalty inscrit, tenez-vous bien, la 96e minute de jeu par les Marocains. Avant de rejoindre Amine Birouk, on va écouter Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc.
Une équipe qui a manqué de beaucoup de créativité ce soir. Donc certainement que le premier fautif, c'est l'entraîneur. J'ai certainement aussi manqué de créativité. Le côté positif, bien défendre en deuxième mi-temps sur les contres où on aurait pu être crucifié. Vous l'avez vu par vous-même. Et on aurait pu se mettre complètement hors du match. Donc on est resté dans le match. On a abusé bien trop souvent de jeux longs. Ce qui n'est pas notre jeu habituellement, mais ce qui démontre une forme d'impuissance en football.
Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc. Alors Amine Birouk, qu'est-ce qui s'est passé pour les Lions de l'Atlas, qui bien évidemment ne devraient pas être plus gênés que ça au match retour par les Comoriens, mais qu'est-ce qui s'est passé selon vous?
marocaine suffisante dans le sens où elle n'a pas mis de rythme, elle n'a pas mis d'impact, elle n'a pas mis de créativité pour pouvoir battre cette équipe des Comores avec un score un peu plus large. On a vu des joueurs qui ont joué au train-train à la baballe, 65% de possession, mais une possession négative, stérile, des passes latérales, un manque de créativité comme l'a si bien rappelé Hervé Renard, mais n'est-il pas...
Ah voilà, ça s'appelle une coupure, c'est en direct, on va essayer de retrouver Amine Birouk hein, qui parlait de ce match bien évidemment. On va, avant de rejoindre Amine, on va parler du groupe C, hein, le Mali qui peut compter 10 points d'avance en cas de victoire au Burundi, puisqu'à domicile à Bamako, les Aigles n'ont pas pu battre les Burundais. Un match nul 0-0, intéressant d'autant que les Panthères gabonaises se sont relancées dans ces éliminatoires en battant le Soudan du Sud 3-0. C'était la première rencontre dirigée par le nouveau sélectionneur du Gabon, Daniel Cousin. Jules Valente, Tangoué, comment vous avez trouvé la prestation hein, des hommes de Daniel Cousin?
Oui, mais l'effet Cousin a réussi à, et dans la mesure où il était appelé pour galvaniser des joueurs quelque peu moroses depuis et quelques mois ou près d'une année. Et donc, il fallait d'abord qu'il puisse les réunir tous parce que tous ne venaient pas au même moment, et on s'est rendu compte que tout le monde était là, les joueurs les plus célèbres et les moins célèbres aussi. Bon, donc finalement, le groupe a tout fait pour remporter la victoire. On a senti la volonté, le talent de Bouanga également et d'Aubameyang à jouer. Et finalement, le Gabon a gagné par 3-0. Mais il faut relever que l'équipe sud-soudanaise n'a pas un bloc, disons, hermétique. Elle, il y a un étirement de ligne qui peut aussi faciliter les affaires à une équipe expérimentée comme celle du Gabon. Et donc, il faut attendre le match retour pour que le Gabon se repositionne complètement. En cas de victoire, il pourra inquiéter le Burundi et le Mali pour le sprint final.
Alors, on va continuer cette émission. On est en direct, bien évidemment. Élisée Oumpatine, qu'est-ce que vous pensez de ce match nul, hein, un peu brouillon, du Mali à Bamako face au Burundi?
Ça a été un match très difficile hein, pour les Maliens, pour le type, puisqu'ils ont dominé avec la première partie. Une large domination, même peut-être sans compter sur la détermination des Burundais, notamment avec Meraimo, celui-là qui évolue dans le championnat anglais, avec un autre avocat qui est un tout de toute la région, puisque les Burundais ont joué sur contre, hein, ils ont joué un jeu regroupé bien derrière, et ils ont procédé par contre attaque, ce qui a notamment dérangé hein, la garde arrière des Maliens. C'est vrai qu'à la toute dernière minute de cette rencontre, l'arbitre a dit un pénalty. C'est vrai que ce n'était pas un pénalty, mais bon, l'arbitre était mal placé pour mieux juger, mais il a doigté le coup de le pénalty, et puis c'était Diaby qui avait la balle de match, et il a simplement envoyé la balle du cadre du gardien de but burundais. C'était difficile, sinon les Maliens pouvaient s'en sortir avec ne serait-ce que les 3 points de cette partie. Même un seul but de cas pouvait suffire à ces Maliens, puisqu'ils ont dominé dans l'ensemble. Ils se sont procurés d'énormes occasions, notamment Moussa Mariga, l'attaquant du FC Porto, avec Sagabari. C'était d'énormes problèmes à la défense, surtout sur les balles aériennes, mais il n'a pas pu cadrer ces ballons. Et résultat, les Burundais se sont bien procuré les 1 point. Je voulais dire le match nul, hein, je voulais dire le match nul. Et le match retour s'annonce donc difficile pour les Maliens, puisque en cas de victoire, eh bien, les Burundais se seront bien se positionnés, puisque une victoire est en train de tendre la main aux Gabonais face à une faible équipe du Sud Soudan. On se rappelle encore le nul que les Burundais sont allés chercher du côté de l'Italie. Donc ça veut dire que pour les plans d'intérieur, les Maliens ont des armes nécessaires pour aller chercher les 3 points. Mais attention à cette équipe burundaise qui a aussi de la valeur. On attend le résultat final pour être vraiment fixé dans ce groupe hein, à l'issue de cette quatrième journée.
Voilà, et on va écouter justement le sélectionneur du Mali, Mohamed Magasouba.
Ce qui a manqué, c'est simplement le but. Parce que le football, quand vous marquez des buts, vous allez vous mettre en confiance. Et quand vous marquez un deuxième, vous vous mettez à l'abri et vous allez vous donner beaucoup de plaisir. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas pu scorer. Ça a créé le doute. Et surtout encore, nous avons la jeunesse. Et le doute est permis. Parce que franchement, la maturité, ça ne vient pas en un seul jour. Je crois qu'au fur et à mesure qu'ils jouent des matchs comme ça, ils vont être matures.
Voilà, Mohamed Magasouba, le sélectionneur du Mali. Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Sporama sur VO Afrique. On a retrouvé notre ami Amine Birouk à Casablanca au Maroc. Est-ce que vous m'entendez, Amine ?
Parfaitement.
Alors, on le disait, évidemment, voilà, une équipe marocaine un peu suffisante face à l'équipe du Comore et ce petit résultat, cette petite victoire 1-0 dans les arrêts de jeu sur pénalty.
Un but qui a fait polémique, mais on revient un peu aujourd'hui, la polémique au Maroc, ce sont les choix d'Hervé Renard. On a l'impression qu'il s'est reposé par reconnaissance sur certains cadres qui ne jouent plus en club, qui manquent de compétition. Et visiblement, on l'a vu durant une bonne partie du match, un Boussoufa, un Dirard qui n'ont pas d'employeur ou qui sont sous-employés par l'équipe de Fenerbahçe concernant le latéral droit. Ça fait que l'équipe du Maroc a joué un peu à l'envers. Et on a vu une accumulation d'attaques en fin de rencontre. Finalement, il y a eu ce but sur cette polémique. 95e minute et 25 secondes de jeu, il y avait 5 minutes de temps additionnel, un pénalty qui rentrait par les cheveux, il y avait auparavant une action qui aurait pu faire polémique puisque les Comoriens avaient réclamé un pénalty avant la fin de la première mi-temps. Voilà. Beaucoup de choses, une histoire tirée par les cheveux et beaucoup d'enseignements à tirer, notamment pour ce match retour qui se dispute demain à midi en temps universel à Moroni sur un gazon synthétique première génération, dans des conditions beaucoup plus compliquées avec une équipe du Maroc qui manqueront certains cadres. Au match aller déjà, le joueur de l'AS Amsterdam Ziyech, qui est un peu le joueur plus créatif de cette équipe, avait été déclaré forfait pour cause de blessure. Aujourd'hui, c'est Dacosta en défense, des joueurs qui ne sont pas suffisamment remis. Il y a Belanda qui a manqué au match aller. On ne sait pas s'il sera suffisamment, je dirais, en forme pour pouvoir discuter à rencontre court. Beaucoup d'inconnu pour cette équipe du Maroc. L'embellie de la Coupe du Monde, l'embellie de la qualification, le soufflet est retombé. Aujourd'hui, on revient à l'ordinaire concernant cette sélection nationale.
Merci beaucoup, Amine. On parle à présent du groupe D, hein, l'Algérie. La seule équipe à pouvoir s'assurer la première place de son groupe dès cette quatrième journée. Pour cela, les Algériens doivent battre le Bénin et compter sur un match nul entre Gambiens et Togolais. C'était bien évidemment le scénario ce week-end dans le groupe D, puisque l'Algérie a battu 2-0 celle du Bénin. Il y a eu le match nul un peu partout entre Togolais et Gambiens. Élisée Oumpatine, le Bénin a-t-il les ressources nécessaires pour pouvoir inquiéter les Fenech de Djamel Belmadi?
Ah, belle question, Nicolas. C'est vrai que ça va être un match très difficile, il faut le dire, puisque l'enjeu de ça, Nicolas, quand on sait que le Bénin n'a jamais battu l'Algérie en match officiel, ce qui a mené d'ailleurs le gouvernement à décréter l'entrée libre et gratuite de même, de quoi permettre aux supporters de porter leur formation à la victoire. L'Algérie, qui a de très bons joueurs, le Bénin aussi, a de valeurs à revendre. C'est vrai qu'au match aller, on a vu l'équipe béninoise très déterminée à être sur des détails avec cette formation à encaisser deux buts, notamment un second but caché, donc entaché d'enjeu. J'allais dire, donc, dit que le match de Cotonou, le match de demain de Cotonou sera un match très difficile. Déjà, ça démarre à 15h, quand une interruption. Le coup de la chaleur, c'est vrai que quand on parle de la chaleur, c'est vrai. Les Algériens sont des grands professionnels, ils peuvent s'en passer de la chaleur, mais ils évitent ça toujours sur l'été. Maintenant, il faut dire que l'entraîneur sait de quoi il est capable, puisque c'est quelqu'un qui connaît bien sûr le football en bas de mer. Il a entraîné la Côte d'Ivoire, la Guinée, il s'est porté énormément à ce genre de football. Il a dit d'ailleurs que ça peut nous douter. Le Bénin n'a qu'un seul résultat à viser demain, c'est bien sûr les 3 points, puisqu'il faudra remporter cette rencontre et de faire un bon résultat, histoire de maintenir sa chance de qualification devant la Gambie et le Togo qui s'affrontent à Banjul dans un match où le vaincu va hypothéquer certainement ses chances de qualification. Donc c'est-à-dire que le Bénin aussi a besoin d'un bon résultat, histoire de connaître toujours à l'Algérie qui est premier de ce groupe-là, Nicolas, ça va être un match très difficile. La dernière confrontation entre les deux équipes s'est soldée par une victoire algérienne de 3-1, c'était à Porto-Novo, au stade Charles de Gaulle.
Merci beaucoup, Élisée. Allez, on va rejoindre Kinshasa, un mélodrame, bien évidemment, à Kinshasa, au stade des Martyrs. Encore une fois, ça sent un peu, malheureusement, Thierry Kamboundi, la qualification ratée pour le Mondial 2018 face à la Tunisie. Qu'est-ce qui s'est passé? Une défaite 2-1 à domicile face aux Warriors du Zimbabwe. Bon, tout n'est pas perdu encore, mais c'est vrai que ça se complique pour les hommes de Florent Ibenge, Thierry. Hein. Thierry Kamboundi, est-ce que vous nous entendez à Kinshasa? Alors, on va me faire signe si on l'a entendu du côté de Skype. On va pour le moment poursuivre avec vous. Bien évidemment, on va donner la parole à Jules Valentin de Gouet. Jules Valentin, je le disais dans ce groupe, hein, 4 points en 3 matchs seulement pour les Léopards de Florent Mbengue. Qu'est-ce qui ne va pas, selon vous, pour les Congolais?
Oui, mais il faut dire qu'on avait un peu sous-évalué les adversaires. Parce que quand on a vu le match, le premier match déjà, entre le Congo et le Libéria, et on a senti que toutes les équipes étaient au même niveau. Il ne faut pas oublier que le Zimbabwe, et qui s'est produit ainsi et à Kinshasa et qui a inquiété et sérieusement l'équipe congolaise sur place, a déjà brillé lors de la dernière Coupe des Nations dans une poule où il y avait le Sénégal et la Tunisie, et les prestations du Zimbabwe n'avaient laissé personne indifférent. C'est une équipe très technique et qui peut à tout moment piéger une équipe venue avec un peu plus de confiance. Donc c'est ce qui est arrivé ce week-end et finalement les Congolais se sont fait piéger, ils ont été menés 2-0. Alors donc, ils auraient pu même encaisser un troisième but si réellement il n'y avait pas eu un sursaut d'orgueil pour sauver l'honneur juste dans les dernières minutes de jeu.
Allez, on fait signe qu'on a retrouvé Thierry Kamboundi via Skype. Thierry, est-ce que vous m'entendez à Kinshasa?
Très bien, Nicolas, je suis là.
Alors, accident industriel, est-ce que les hommes de Florent Mbengue peuvent l'emporter à Harare demain?
En tout cas, c'est ce qu'ils ont promis. Hein. Depuis 3 heures du matin, ils sont arrivés sur place à Harare. Ils viennent de s'entraîner, de faire la découverte de l'aire de jeu du stade Harare qui va abriter ce duel, ce match retour entre les Warriors et les Léopards de la République démocratique du Congo. Ils ont tout intérêt à revenir un peu au classement sur cette équipe, cette formidable équipe du Zimbabwe. Après, comme vous avez dit, hein, après l'accident industriel à Kinshasa, devant plus de 80 000 spectateurs, les Léopards ont fait face à une formation qui a joué avec un bloc bas, mais qui a été très réaliste d'efficacité. Les Zimbabwéens n'ont tenté que 8 reprises, pardon, d'inquiéter Raphaël Moshi, le gardien de but des Léopards de la RDC, avec 2 buts inscrits, alors que les Léopards ont eu 20 tentatives pour 3 seulement cadrés. Donc, Florent Mbengue, on lui a reproché un tout petit peu d'avoir aligné une formation avec beaucoup de puissance et des milieux récupérateurs. Et l'équipe n'a pas vraiment bien tourné hein, face à une formation zimbabwéenne qui a misé sur les balles arrêtées et sur la contre-attaque. Et ça a réussi parce que c'est ça sa force. On a vu le match contre le Congo Brazzaville qu'ils ont joué quelques semaines plus tôt. Et c'est sur cette force-là qu'ils avaient misé effectivement. Florent Mbengue a étudié cette équipe. Il a reconnu que ça n'avait pas tourné au niveau de l'efficacité, alors que les Léopards, à travers Cédric Bakambu, et d'autres garçons se sont procurés plusieurs occasions et ils n'ont pas pu les concrétiser à Kinshasa. C'était la déception. Mais ils ont tout intérêt, surtout que le Congo Brazzaville l'a emporté contre le Libéria et est bien parti pour faire un bon résultat à Monrovia, à laver la France subie le samedi dernier au stade de Martyr. Donc, le match est prévu demain, mardi, à Harare. À 21h d'Harare, il sera 18h à Kinshasa.
Ouais, ça va pas être facile. En tout cas, grosse pression, bien évidemment, pour les hommes de Florent Mbengue. Allez, on va parler de ce groupe H. Hein. La Guinée, finalement, qui est bien partie, puisqu'elle a battu le Rwanda 2-0. Et il n'y a pas eu, n'en déplaise à notre ami Firmin Photo, entre la Centrafrique et la Côte d'Ivoire, bien évidemment, malgré les débuts de Geoffrey Kondogbia. Une victoire 4-0. Pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Élisée Oumpatine, on le disait, la Guinée, hein, qui se comporte bien dans ces éliminatoires.
Hein. Oui, c'est surtout cette victoire que cette formation a pu enregistrer il y a de cela quelques mois du côté de Boaké contre la Côte d'Ivoire, bien entendu, de ces éliminatoires. C'est vrai qu'il n'y avait pas encore Paul Puit à la tête de cette équipe, c'était l'entraîneur local qui avait permis à la bande Nabi Keïta d'aller prendre les 3 points de ce côté-là. Depuis, cette équipe a retrouvé sa valeur puisque la Guinée
C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de ce pays-là, mais en matière de club, c'est un pays qui a remporté la Ligue africaine des champions avec aussi la Coupe de la Coupe des vainqueurs de coupe, notamment avec le Afia de Conakry et le roi Afrique de Conakry. Depuis un certain moment, le nouveau président de la Fédération guinéenne de football, Antoine Soirée, a commencé par mettre son expérience en jeu. C'est vrai qu'il a beaucoup investi du côté de Oréa. Il a mis son expérience en jeu, histoire de permettre à la sélection nationale de se hisser parmi les grands, et ça a commencé par marcher. Et Paul Puita a redonné beaucoup de la valeur à cette équipe avec le François Kemano. On avait eu peur pour David Keita en Ligue des Champions. Eh bien, il était là, il a permis à cette formation d'abord de battre difficilement l'équipe de la République centrafricaine 1-0. C'est vrai que Kondogbia n'était pas encore présent, mais c'était difficilement que les Guinéens ont pris les 3 points. Aujourd'hui, la Guinée fait partie des deux sélections qui ont remporté les 3 rencontres de la phase aller. La Tunisie, la Guinée, aujourd'hui la Guinée est dans une très bonne situation, l'histoire de se qualifier déjà dès la 4e journée. Il suffit simplement à cette équipe d'aller battre le Rwanda à Kigali, et c'est possible puisque Paul Puig connaît bien sûr le football africain. Il va donner cette expérience à cette formation et on espère que les Guinéens vont prendre des 3 points pour qu'on les retrouve une fois encore en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, dans le groupe I, le Burkina Faso, l'Angola et la Mauritanie à égalité de points, 6 points. On va dire que la Mauritanie est revenue un peu sur terre, battue 4-1 à Luanda. Et le Burkina Faso qui a fait le métier, victoire 3-0 face au Botswana. La Tunisie qui s'impose 1-0 face au Niger et un nouveau succès cette fois-ci à Niamey. On verra à coup sûr les Aigles de Carthage à la CAN 2019. L'Égypte, vice-championne d'Afrique, a balayé Iswatini, l'ex-Swaziland, 4-1. Dans le groupe K, la Guinée-Bissau a pris une petite option sur la qualification en battant la Zambie. Et puis dans le groupe L, un succès au Lesotho ne suffira pas au bonheur des Ougandais, sauf si le Cap-Vert gagne par ailleurs en Tanzanie. Allez, je vais vous donner juste un résultat en cours. Pour le moment, c'est le gros match de la soirée en Ligue des Nations. Et pour le moment, l'Espagne qui est assez battue sèchement, 3-0 après 41 minutes de jeu face à l'Angleterre. Sterling, Rashford et Sterling encore lui qui permettent finalement au Lyon de l'Angleterre de l'emporter pour le moment 3-0. Amdinsi, ça vous surprend finalement ce gros résultat? En tout cas, c'est la mi-temps face à l'Espagne.
Oui, ça me surprend puisque l'Espagne, on connaît cette équipe qui joue à Angers, comme le fait l'FC Barcelone. L'Espagne qui avait balayé la Croatie, finaliste malheureuse de la Coupe du Monde. L'Espagne qui se fait dominer comme ça par l'Angleterre, une équipe jeune qui a de l'avenir, mais ce résultat me surprend. Mais comme un match dure 90 minutes, rien n'est perdu, rien n'est aussi gagné d'avance.
Merci beaucoup Amdine. Si on donne les autres résultats de la soirée, c'est bientôt la mi-temps en Islande, 0-0 face à la Suisse, victoire impérative pour les Islandais, 0-0 également entre finalement la Finlande et la Grèce, victoire 1-0 pour le moment de la Bosnie-Herzégovine face à l'Irlande du Nord, un but partout après 42 minutes de jeu entre l'Estonie et la Hongrie, 0-0 entre la Biélorussie et la Moldavie, et puis Luxembourg pour le moment qui mène 1-0 face à San Marin. Et puis on va vous donner aussi l'info, c'est le coup d'envoi cette nuit aux États-Unis de la nouvelle saison de la NBA. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. C'était Sporama sur VOA Afrique. On va remercier à Kinshasa, Thierry Kambundi, Top Congo FM via Skype. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain.
On va remercier Amine Virou qui était avec nous depuis Casablanca. Bonsoir Amine. Élisée Oumpatine était avec nous depuis Boïko, c'est au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain. Et
Jules Valentango était avec nous depuis Libreville, c'est au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, à très bientôt.
Amdinsi était avec nous depuis Columbus dans l'Ohio. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas Pinot et à lundi prochain pour un autre numéro de Sporama.
La mise en onde assurée par Joselle Morissin et Firmin Kowayeda, Nicolas Pinot à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.